en sol majeur vous propose cette rediffusion.
Allô? Oui, Ivry. Absolument. Je viens d'essayer de vous appeler. RFI en sol majeur est en bas de chez vous. Eh ben, je fais le code et puis on arrive.
En sol majeur. Yasmine Joaquin.
Ivry Gitlis, c'est un enfant, c'est un sauvage, c'est un monstre sacré aussi. Il joue du violon depuis toujours, puisqu'il joue depuis l'âge de 5 ans. Et en cette fin de matinée parisienne, il nous ouvre sa porte, pas très bien réveillé, car un artiste de 94 ans, ça n'a pas de limite, ni avec la nuit, ni avec les sonates nocturnes. Alors je vous donne l'image, si vous ne l'avez jamais vu en concert, crinière blanche et léonine. Ivry Gitlis cale son violon comme s'il calait bien sa vie sous son menton, pour câliner la langueur d'un Sibelius ou la jeunesse d'un Tchaïkovski. Ivry Gitlis vibre comme personne, c'est une école à lui tout seul. Il a joué dans le monde entier, traversé le XXe siècle sans idée de carrière, et quelle carrière! Il a créé le Festival de musique de Vence et médusé les plus grands mélomanes. Et avant de prendre l'avion pour le Japon, héron, héron, petit patapon, le berger de la musique nous reçoit à la bonne franquette. On est chez vous, Ivry, dans cet appartement qui fait presque mansarde d'étudiants. Qu'est-ce qu'il y a chez vous?
Il y a moi, déjà, quelquefois. C'est-à-dire, même quand je suis ici, ce n'est pas nécessairement un signe. Être quelque part, c'est être nulle part et partout en même temps, quelque part. C'est être l'oiseau qui passe. Je sais pas, hier, je suis allé au bois de Boulogne et j'ai vu un oiseau, je sais pas, qui avait une patte qui s'est engluée de quelque chose, qui boitait comme ça, c'était... Et on a essayé de l'attraper pour lui enlever. Visiblement, ça le faisait être autre chose qu'un des autres oiseaux. Et peut-être il aimait ça comme ça.
Vous êtes un drôle d'oiseau vous-même. Des étagères au mur avec des objets d'art ramenés du monde entier, sans doute d'Afrique, on y reviendra peut-être. Des canapés, plusieurs canapés, puis un piano, un piano à queue au fond de votre mansarde, enfin je dis mansarde. On a l'impression, Ivry Gitlis, que vous avez jeté en vrac toute une vie dans cet appartement.
Ou alors cet appartement s'est jeté sur moi.
En lisant votre biographie L'âme et la corde, qui va nous aider à construire cette conversation, j'ai relevé cette phrase, vous dites « Jouer du violon, c'est une chose totalement psychosomatique. »
Psychosomatique parce qu'il y a le côté, évidemment, spirituel, je veux dire, de l'esprit ou de la pensée, du sentiment qu'on ne peut pas saisir avec sa main. Puis somatique dans le sens que tout ce que vous ressentez doit finalement se traduire par le geste, par la bougeotte, par le moyen qu'on prend une vie à ne pas comprendre. Il faut bien le dire, c'est ça. C'est d'ailleurs, dans un sens, l'instrument le plus schizophrénique qui existe. Il y a la main gauche qui fait une chose que la main droite ne fait pas, et le reste du corps qui n'a rien à faire avec tout ça, dans un sens. On est tous nés avec des bras, des jambes, une tête, des yeux, etc. Mais qui est-ce qui a mis cette espèce de folie mansardise à jouer du violon, qui est une folie totale.
Oui. J'espère qu'on aura l'occasion d'être un peu schizophrène avec vous au cours de cet en sol majeur. Avant de faire connaissance avec votre violon Ivry Gitlis, moi je sens comme un petit vent.
V comme vent de l'histoire.
Oui.
Ivry Gitlis, on peut dire que un vent de l'histoire est passé sur votre famille. On va un peu raconter cette famille. Où sont nés vos parents?
Ils sont nés tous les deux, d'ailleurs, dans la même ville, en Ukraine, Kamenets-Podolsk. Ils sont vraiment nés là-bas. Et puis un jour d'hiver, pendant à la fin de la Première Guerre mondiale, ils étaient tout jeunes, ils sont sortis au milieu de la nuit. Ils ont marché dans la neige, dans la boue, dans la glace. Et ils ont traversé le Dniester pour aller en ce qui est devenu Israël, c'est-à-dire Palestine à l'époque. Il y avait des passeurs. Mais souvent, ces passeurs prenaient l'argent pour vous passer. Et quand ils ont l'argent, ils vous tuaient aussi. Ça arrivait.
Oui. Vous brûlez un peu les étapes. On reste une seconde dans cette Russie mythique qui a été celle de vos parents. Notamment, j'aimerais que vous évoquiez votre grand-père, un certain Itzhak Meir.
Mais je ne l'ai pas connu, malheureusement. Il est mort de faim, d'ailleurs, pendant la Première Guerre. Mais il devait être quelque chose. D'ailleurs, je suis appelé après lui, en vérité, mon vrai nom, c'est Itzhak Meir. Et vous savez, Itzhak en hébreu, ça veut dire celui qui rira, parce que lorsqu'un ange est venu dire à Sarah, la femme d'Abraham, qui avait 90 ans à l'époque, qu'elle va avoir un bébé, ben là, elle a éclaté de rire en lui disant, vous vous foutez de ma gueule. Et puis, elle a eu un bébé. Elle l'appelait Itzhak, parce que Itzhak, il va rire. Oui, alors moi, on m'appelait Itzhak Meir. Et Meir, c'est celui qui éclaire. Alors je suis celui qui fait rire et qui vous éclaire. Vous voyez un peu la lumière. Hein?
J'essaye. Vos parents, donc.
Oui.
Ils ont quitté la Russie, ils n'ont pas fui la Russie.
Ah non, ils n'ont pas fui. Ils ont quitté avec l'idée d'aller en Palestine. Ils ont déjà commencé à parler l'hébreu hein, là-bas déjà. Oui.
Ils ont quitté pour l'idéal sioniste.
Oui. C'était quand même... Vous savez, si je parle comme ça, j'ai presque des larmes. Parce que je pense à ces jeunes gens qui ne pensent pas à un risque possible. Le risque est là. Et ils le vivent comme un chevalier qui prend son cheval et traverse les vallées, les montagnes, les rivières, les fleuves, la mer. Et c'est une sorte de chevauchée fantastique.
On va les imaginer effectivement traverser la mer Noire.
Très noire, oui.
Pour la 5e Aliya, ils s'embarquent.
Oui. Ils sont arrivés à Haïfa. Et ils sont restés à Haïfa. Et mon père, on était en train de construire les grands moulins de Palestine. Alors, mon père est devenu maçon. Et puis quand ils ont fini de construire les grands moulins de Palestine, il est devenu meunier. Nous habitions d'abord dans le vieux village arabe, près du souk, où ma mère m'amenait souvent faire le marché. Imaginez l'inimaginable contraste pour cette jeune femme sortant d'un quasi ghetto de steppe neigeuse et de la famine des années de guerre et se trouvant au milieu de tomates, des pastèques, et dans le khamsin, le vent du désert, odeur d'épices, djellaba, de fella. Et cette jeune femme me traînant par la main dans cette cohue pittoresque et indescriptible. Je me rappelle le jour où, croyant toujours tenir la main de ma mère, distrait par le spectacle, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais attelé à la mère d'un arabe en djellaba. Quelques moments effrayants de perdition s'écoulèrent avant que la bonne volonté de tout le monde ne réunissent mère et enfant.
Alors, voilà ce que vous écriviez, Ivry Gitlis, dans votre autobiographie « L'âme et la corde ». Attendez, j'ai pas fini ma phrase, hein, quand même. Bon. Autobiographie parue en 1980. Et il faut quand même rappeler qu'à Haïfa, à ce moment-là, lorsque vous êtes dans ces rues-là, avec votre mère, est sous mandat britannique. Oui. Donc, ma question... est simple, est-ce que les Palestiniens existaient dans votre vie, dans votre tête, dans les conversations?
Mais nous étions des Palestiniens aussi, depuis 2000 ans.
Mais ça veut dire que... Quoi? Je ne sais pas si vous parlez arabe, hein, d'ailleurs, Ivry.
Mais quand
Gitlis.
J'étais enfant, je parlais souvent. On jouait dans la rue ensemble, c'était des enfants arabes.
Est-ce que vous vous sentiez vous-même arabe ?
Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir arabe ? Vous êtes française, vous vous sentez particulièrement française ou pas française ? Quand vous êtes enfant, vous êtes enfant. Il y a une seule internationale véritable, c'est l'enfance. Après, on vous donne des limites.
Paix comme partition familiale.
Alors vous voilà, Ivry, en Terre Sainte. La musique pousse au bout de vos doigts très rapidement. Un violon à 5 ans, des dispositions musicales évidentes. Mais ce qu'il y a d'étonnant dans votre vie, c'est que c'est vous, petit garçon, qui allez devoir décider de quitter Haïfa pour faire de la musique.
Oui, c'est-à-dire que bon, j'étais avec les enfants arabes. Malheureusement, il y avait certaines maladies qui étaient assez, comment dirais-je, rampantes dans la région. L'une d'elles, c'était la trachome. C'est une maladie des yeux dont on peut devenir aveugle. Je peux vous raconter une anecdote. Comme j'ai le titre d'ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO, il m'arrive d'avoir participé à certaines conférences et des trucs comme ça. Et un jour, il y avait à côté de moi une délégation palestinienne, très amicale, on a beaucoup parlé ensemble, parce qu'on était contents de se voir. Et on m'a demandé à un moment de dire quelques mots. Et je suis allé là, et j'ai commencé justement à dire que mon enfance, je l'ai passée donc à Haïfa, et que mes premiers copains et copines, c'était des enfants arabes. En vérité, j'étais tellement près d'eux que j'ai attrapé la trachome. Alors, du coup,
une preuve d'amour.
Oui, enfin, je veux dire, à quel point j'étais close. Et alors, la délégation, tout d'un coup, palestinienne, s'est levée comme un seul homme, sorti en protestation. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Ils disent que j'accusais les enfants arabes de me donner une maladie. C'était complètement fou. Et je me suis dit souvent à quel point certains, peut-être des conflits internationaux qui finissent par des guerres commencent avec des bêtises pareilles. Je veux dire, c'est pas, bon, moi j'ai dit une chose que tu comprends à l'envers. Je dis, on était amoureux dans un sens. Quand on est amoureux de quelqu'un, on attrape la maladie de l'autre.
Alors dans la tête du petit Ivry Gitlis, il y a le murmure de plusieurs musiques, plusieurs berceuses. On va voir quelles sont les premières notes qui se promène sur votre partition enfantine. J'allais vous demander, Ivry Gitlis, que vous rappelle cette chanson qui est tout droit sortie d'un film soviétique des films Tsigan de 1936 et intitulé Les Marins de Kronstadt, film qui évoque effectivement la révolution d'octobre de 1917.
Vous l'avez vu ?
Oui, pour vous.
Je me rappelle très bien parce que d'ailleurs on voyait souvent des films soviétiques et russes. Il y avait des films magnifiques. Vous savez, je n'ai pas vécu en Russie. Mes parents... ils m'ont rejeté hors du ventre de ma mère sur la terre sainte, comme vous dites. Mais la Russie, l'enfance de mes parents là-bas est d'une manière générale capitale dans ma vie. Parce que c'était quand même le berceau de toute une forme de vie vaste comme le steppe qui est infinie, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, lorsque je suis allé en Russie pour la première fois, j'étais le premier artiste israélien pour jouer là-bas. Je dois dire que dans l'avion qui m'a mené à Moscou, lorsqu'on s'approchait de Moscou, j'ai eu des battements de cœur tels que je croyais que j'allais presque éclater parce que c'était tourner, arriver là où les choses étaient la base de tout.
Alors on en était au fait que vous quittez Haïfa sur un bateau où vous voyagez en quatrième classe, oui. Ivry Gitlis, vous arrivez à Paris avec 30 francs en poche, 30 francs de l'époque c'est vraiment pas grand chose, et vous voilà dans cette France des années 30 en tant que juif. Est-ce que vous étiez conscient du climat antisémite de l'époque ?
Non, moi je n'ai pas eu à faire ça directement. La seule chose que, vous savez, lorsque je participais au concours Jacques Thibault... Hein,
qui va vous donner la célébrité.
Oui, et Jacques Thibault était un de mes maîtres, était un type merveilleux. Il y avait un violoniste très connu d'ailleurs, qui m'a entendu jouer, qui a dit, mais à propos de moi, il joue comme un juif, il a dit. Alors évidemment, s'il le disait dans le sens que... Parce que la plupart des grands violonistes du siècle et demi dernier étaient quasiment tous des juifs, à partir de Heifetz, Hellmann, Huberman, Kreisler, tout ça. Alors c'est ok, mais il n'a pas nécessairement dit ça comme ça, il joue comme un juif, ça veut dire quoi, hein? Ça devrait être un compliment, mais c'est pas ça.
Et si on enlève la péjoration, est-ce que vous êtes d'accord de dire que vous jouiez ou vous jouez comme un juif ?
Non, je ne sais pas ce que je joue quand je suis. Mais je suis juif.
Il n'y a pas une manière juive de jouer du violon ?
Non, il n'y a pas une manière juive. Mais la plupart des grands violonistes étaient des juifs. Mais je crois qu'on dit évidemment une chose, qu'on jouait du violon, parce que lorsqu'il fallait foutre le camp, c'est quand même été plus facile à porter le violon sous le bras qu'un piano, par exemple. Ceci dit, il y a quelques-uns des plus grands violonistes qui étaient aussi des juifs. Alors, de Schnabel, de Horowitz et d'autres. Mm. Mais sinon, ils étaient des tziganes.
Les tziganes, je les garde de côté, d'accord ? Pour le dessert.
Oui.
Est-ce que c'était la révolution pour vous de jouer du Camille Saint-Saëns ? On va s'écouter un Rondo Capriccioso, version Ivry Gitlis. Révolution ? Révolutionnaire de jouer ça pour vous ?
Écoute, si je suis une révolution, alors c'est une révolution pour les autres, pas pour moi. Thank you. Yann.
Non, c'est moi. Je pense toujours à toi.
C'est gentil.
Je devais qu'on se voit quand même.
Oui, ben écoute, il faut bien qu'on se voit quand même. Oui, avant que le bon Dieu veut nous voir, mais il nous donne beaucoup d'ennuis. Là. Ben écoutez, vous savez, je suis là avec trois jeunes dames très sympathiques et elles veulent m'interviewer pour Radio France Internationale. Vous imaginez une chose pareille, tu t'imagines ?
Puisque vous êtes là depuis 20 minutes ou 20 mesures, au moins vous le savez maintenant, en sol majeur est au violon, mais attention, pas en prison. Hein. Nous sommes toujours en visite chez un immense violoniste. Alors qu'est-ce qu'il faut à Ivry-Gitlis pour jouer du Bartok ou du Sibelius ? Bah, trois fois rien en fait, ou plutôt quatre doigts et quatre cordes. C'est ce qu'il faut pour faire plier, pleurer, gémir ou gambader dans son Far West intérieur le violon d'Ivry-Gitlis. Comment ça, c'est qui ? C'est tout simplement l'un des interprètes les plus demandés de la scène internationale et c'est celui qui joue avec les plus grands orchestres du monde. Ivry-Gitlis, 94 ans, né à Haïfa de parents russes, il a tout vécu, la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël, Hiroshima, la guerre des Six Jours... et mai 68 aussi. Alors avant de vous retrouver aux côtés d'Isabelle Adjani dans Adèle H, où vous jouez derrière la caméra de Truffaut, un peu d'Ivry-Gitlis jouant Tchaïkovski. C'est un ancien enregistrement qui séduit toujours.
Je ne fais que mon métier. Je ne suis que l'instrument d'une force venant d'ailleurs.
Dites-moi, ce pouvoir a-t-il des limites ?
Ah oui, l'espace par exemple. Je ne puis agir sur un sujet placé hors de ma présence. Mm-hmm. Et dites-moi, vous êtes journaliste ?
Non, j'aimerais employer vos dons à titre personnel.
C'est pour guérir un malade ?
Non.
Je l'ai déjà fait, vous savez.
Non, non, il ne s'agit pas de cela. Pourriez-vous faire changer les sentiments de quelqu'un ?
Comment ça changer ?
Je veux dire... Par exemple, changer l'amour en haine. Ou inversement.
Hélas, non. Je n'ai de pouvoir que sur les corps, pas sur les âmes.
Oui. Vous avez vu le film ?
Oui. Vous êtes bien,
hein ? Oui, très bien.
Alors, un petit peu d'Adèle H en sol majeur sur RFI avec une Isabelle Adjani qui vous donne la réplique. Ivry-Gitlis, c'était votre voix à l'instant. C'était comment pour le violoniste que vous êtes de vous glisser comme ça dans le costume d'un magicien magnétiseur ?
On change tous les jours de costume.
Mais on a l'impression que c'est naturel pour vous de jouer.
C'est naturel, oui. Il paraît que je suis un bon acteur, c'est ce que les gens me disent. Mais je crois que être acteur, c'est être soi-même. Finalement, vous savez, la vie est un acte en soi. C'est un acte qui dure le temps que ça dure.
Question bateau, mais tant pis, c'est la réponse qui m'intéresse. Jouer un personnage, c'est comme jouer du violon ?
Oui, c'est comme jouer du violon, mais je ne joue pas du violon. Peut-être je me laisse jouer par le violon, dans un sens. Et si je joue comme acteur, c'est que la personne que je suis en ce moment, c'est cette personne qui m'utilise comme l'instrument de son expression. Je veux dire, ce n'est pas une chose artificielle. C'est être ou ne pas être. To be or not to be. But that is not the question. Ce n'est pas la question.
Quel est l'objet le plus précieux dont vous êtes en possession?
Écoutez, si je suis en possession de mon esprit, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut posséder d'autre? Comment peut-on posséder des choses qui sont passagères de toute façon, puisque la vie l'est déjà?
Vous êtes entre la poésie et la philosophie, hein, tout le temps.
Je sais pas si je suis entre la poésie.
Alors, je vais vous proposer une phrase, justement, poétique, je pense. « Je est un autre, et tant pis pour le bois qui devient violon. »
C'est beau, ça.
Vous me faites penser à cette phrase de Rimbaud, oui.
Ah ben, je le vis.
Est-ce qu'on peut le voir, votre violon, d'ailleurs? Vous ne l'avez pas encore présenté?
Non.
Vous n'avez pas fait vos gammes ce matin, rien?
Pas encore, non.
Vous n'êtes pas sérieux, Ivry Gitlis, hein?
Voilà, il est là.
Ah, c'est beau, dites donc, quand ça s'ouvre, cet étui.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il a une histoire, ce violon?
Attendez, il ne faut pas toucher l'écran. Ah, ça, c'est dangereux, ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour ce violon? Il s'appelle le Sancy. C'est un Stradivarius. Il est né en 1713. Et il a été, pendant un temps, le violon de Kubelik, qui était un grand violoniste de la fin du 19e. Et moi, je suis tombé sur lui à New York. Je cherchais un violon. Il y avait des gens qui m'ont aidé à l'acheter parce que je n'avais pas tout l'argent nécessaire.
Ça coûte combien? Il coûte combien, ce violon?
Ce violon n'a pas de prix. Vous savez, il y a un violon de la même année qui a été vendu il y a un an ou deux pour 14 millions d'euros. Et un violon comme ça, ça devrait coûter 50 millions d'euros, parce qu'il n'y a pas deux comme ça. Je veux dire, quand on pense que certaines voitures coûtent des millions, alors...
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce violon?
Il a de particulier le fait qu'il est mon compagnon depuis 50 ans. Et ça m'a pris au moins un an et demi, vraiment, pour le connaître vraiment, et pour qu'il me connaisse aussi.
Et quel type de relation vous avez tous les deux?
C'est une relation d'unification totale. C'est une relation d'amour. C'est même pas une question, on joue, on est la chose, je veux dire, le violon c'est moi. Et moi je suis le violon. Des petits détails de rien, je veux dire, dans la manière de poser un doigt après l'autre qui importe. C'est un travail minutieux.
À propos de communication, il n'y a pas les conditions là pour que vous jouiez même quelques minutes pour les auditeurs du monde.
Non, mais vous avez des disques, moi, c'est mieux.
C'est pas la même chose.
Je vais vous dire, pour moi c'est la même chose, parce que justement, il y a peut-être des gens, de mes collègues, certains formidables, là, il n'y a pas à dire, qui jouent pour le disque. Moi, quand j'enregistre, je joue. Tant pis pour le disque. Je veux dire, je ne joue pas pour le disque, pour jouer bien, pour jouer propre.
Vous recherchez l'accident dans un concert?
Non, on n'a pas besoin de chercher, ça arrive.
Ça arrive. Non, ce que je veux dire, c'est que vous l'accueillez...
Mais je n'ai rien contre l'accident. Je veux dire, un bel accident. Je connais un disque, par exemple, de Fritz Kreisler, qui était l'amour de tous les violonistes. À un moment, il joue, c'est pas une fausse note, c'est la mauvaise note, pas la note qu'il fallait. Au lieu de... Mais cette note, la longue note, c'est tellement beau que je ne pourrais pas l'entendre autrement.
Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes resté un enfant sauvage de la musique, Ivry Gitlis.
Oui.
Vous avez claqué la porte de tous les conservatoires du monde. Quand vous enseignez à vos élèves, vous préférez leur faire écouter les tziganes?
Parce qu'ils vivent l'instrument d'une manière absolument presque génitale, si je peux dire. Il faut voir aussi comment ils tiennent l'archet, etc.
Parce que, c'est-à-dire
ben, la manière de tenir, etc. Bon, il y a la manière russe, la manière allemande.
Et c'est quoi la manière russe?
Mais c'est, en vérité, vous savez, de la tenir de la façon la plus normale possible dans une situation anormale.
Et vous, votre manière à vous, c'est quoi? Comment vous le tenez, l'archet?
Comme ça. Vous voyez à travers la radio? Ah.
À vous dirai-je, maman, ce qui
c'est
cause
ça?
Mon tourment.
את יכולה לשיר את השיר?
Pourriez-vous me fredonner une cantine de votre enfance?
Noumi, noumi, yaldati, noumi, noumi, ni. Noumi, noumi, yaldati, noumi, noumi, ni. Tiri, tariririrari, tari, tari, tari. Noumi, noumi, dors, dors, mon petit, dors, dors. Ma mère m'a chanté ça, en hébreu.
C'est votre première langue, l'hébreu?
Ah oui, hein? C'est la langue de la Bible.
J'ai relevé cette phrase dans votre livre. Le folklore, c'est comme une nappe d'eau ou une nappe de pétrole.
Ah bon?
Tout le monde peut y puiser, c'est ce que vous dites.
Ah bon?
Il y a quoi dans votre folklore musical à vous?
Mais dans mon folklore musical, il y a beaucoup de chansons russes aussi. Et ma mère avait une très jolie voix. Elle aurait pu être chanteuse, elle a étudié d'ailleurs. Elle a étudié avec le mari. Sa femme était la sœur de Ben Gurion. Ben Gurion était quelqu'un qu'on connaissait, je veux dire.
Donc il y a des chansons russes dans votre folklore?
Oui, des chansons juives. Je viens de vous chanter une en hébreu.
Je me plains pas. Je vais vous faire écouter quelque chose, Ivry. Mm. Vous êtes emmailloté avec votre violon, vous êtes trop mignon, vous êtes canaille, mais vous êtes quand même très mignon, Ivry Gitlis. Ça vous rappelle quoi alors, cette musique?
Peer Gynt, de Ibsen, oui. Mais ma mère chantait ça, elle chantait. Tari, 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 C'est curieux parce que la seule fois, enfin peut-être la seule, où je suis allé au théâtre avec elle, c'était au théâtre de c'est possible, l'Odéon, il y a une place pas loin d'ici. Et on est allé voir Peer Gynt. Je me rappelle de ça. C'était avec ma mère. Ouais.
Et apparemment, c'est aussi lié dans votre mémoire à ce moment où vous retournez en Israël, en 1951, donc 3 ans après la création de l'État hébreu. Mmh. Vous n'aviez pas pu y retourner jusque-là parce que votre mère n'avait pas très bien réagi au fait que vous aviez épousé une non-juive.
Ah non, 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 c'était pas ça, non.
Oh ben je l'ai lu. Hein.
Non, non. Ma mère, malheureusement, est morte. Elle est rentrée. J'ai vu ma mère pour la dernière fois la dernière semaine de la guerre, c'est-à-dire en mai 1945. Et la dernière fois que je l'ai entendue parler, c'était au téléphone de Liverpool.
Mmh. Alors, est-ce que c'est votre père qui aurait mal réagi
non,
au fait
non,
que...
Il n'a pas, non, il n'a pas mal réagi. Non, mon père a écrit, lorsque je lui ai dit que je sortais avec une jeune femme qui n'était pas juive. Et mon père m'a écrit en disant, écoute... après tout ce qu'on a vécu, etc. Et moi, je lui ai répondu, écoute, je n'épouse pas un pays, j'épouse une femme.
Est-ce qu'en quittant Haïfa, musicalement, je ne sais pas trop, mais est-ce que vous n'avez pas quitté une part de vous-même?
Ah, c'est sûr, oui.
Je dis ça parce que vous êtes homeless en même temps. On a l'impression que vous n'avez pas de maison. Vous êtes un peu de partout et un peu de nulle part.
Mais vous avez très bien dit, hein. Je suis de nulle part. Je suis une partie de nulle part.
Vous prenez votre voix d'acteur pour dire ça?
Non, la voix que j'ai, elle peut varier. Je ne joue pas toujours les mêmes notes.
Comme carnet de voyage.
Oui, une petite plongée comme ça dans votre carnet de voyage. Vous avez fait le tour du monde et en 67 notamment, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce voyage important dans votre vie parce que vous y découvrez dans cette Haute Volta, actuelle Burkina Faso, de 1967, vous y découvrez les griots. C'est une découverte importante pour votre oreille de violoniste.
Je suis allé dans beaucoup de villages comme ça, avec mon violon, et j'ai joué avec eux. Ah oui, formidable. Pourquoi? Parce que c'est être dans le vrai, dans la nature des choses. On ne leur a pas appris comment il faut chanter ou pas chanter.
Il ne faut pas apprendre, en fait. Hein.
Moi, je fais ce qu'on appelle enseigner. J'aime pas ce mot. Mais je dis « j'apprends ». Et si j'apprends, alors l'autre personne qui est en face de moi apprend aussi. Parce que, en soi-disant enseignant, j'ai un peu prétentieux comme ça, to teach, eh ben, c'est une forme d'apprendre.
Peut-être que vous avez appris auprès de ces griots.
J'aime beaucoup l'Afrique, de toute façon. Je suis allé avec mon violon dans les villages.
Comment vous étiez perçu là-bas avec votre violon?
Mais je crois qu'on était mutuellement heureux de se trouver ensemble.
Vous vous souvenez de ce moment où vous avez joué la chaconne de Bach dans le Zululand,
oui.
En Afrique du Sud?
Oui, mais je me rappelle plus ce que je disais à propos de ça. Mais je veux dire, évidemment, je me rappelle.
C'est page 184 de La corde et l'âme.
L'âme et la corde.
L'âme et la corde. Vous savez que vous avez de la mémoire. Mm-hmm. Pourquoi vous appelez ça la corde, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a comme lien entre la corde et vous, violoniste?
Il y a 4 cordes de violon. À un moment, je voulais dire... 4 cordes pour se pendre avec. 4 strings to hang with. Alors tout le monde dit, ah non, non, pas de pendaison en France. Il y a les guillotines, mais pas de pendaison. Ça aurait été bien, 4 cordes pour se pendre avec.
Alors là, ce que vous racontez en jouant cette chaconne de Bach devant un public de ce Zululand, vous commencez à jouer quelques notes et vous entendez un murmure qui se transforme en ouragan de rire. Donc là, vous vous dites, bon, bah, c'est fichu, quoi, faut que j'arrête. Et on vous arrête justement, on vous dit « Non, non, où est-ce que tu vas ?» et vous dites bah ça marche pas quoi, ce que je suis en train de jouer n'a pas l'effet que j'espérais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe, il m'a dit, au contraire, ça leur a fait quelque chose comme ça dans le ventre. Hein. C'était clair, c'était comme si on a ouvert la porte du Niagara ou de la rivière, et l'eau, ça a fait vibrer les entrailles.
Je trouve que c'est très révélateur du lien que vous entretenez avec l'autre quand vous lui offrez votre musique.
Mais justement, je ne leur offre pas. Je n'aime pas ce mot « offrir ». On passe un moment ensemble, je ne sais pas, c'est un morceau de vie.
On vit ensemble.
On vit quelque chose. Mm-hmm.
On a l'impression que vous vivez un peu comme en apesanteur, Ivry Gitlis, au-dessus de toutes les modes, au-dessus du temps, au-dessus des villes aussi. Comment vous le regardez, ce monde d'aujourd'hui ?
C'est pas très réjouissant, non. Pour des gens comme moi qui ont passé pas mal de choses, de voir que certains petits pousses qui sortent de la terre, généralement avec des fleurs, etc., mais là, ça sort de petites laideurs, quelquefois, qui ne sont pas très réjouissants et pas très... pas très.
Vous avez voté aux dernières élections ?
Malheureusement pas, puisque je n'ai pas la nationalité française. Je suis israélien. Peut-être c'est aussi bien comme ça.
Une dernière question légère. Au jeune homme de 94 ans, pourquoi vous en voulez d'autres ? Est-ce que comme quand vous étiez tout petit, vous continuez à ne lasser qu'une chaussure ?
Non. Vous êtes vraiment très drôle. Non, je ne lasse pas qu'une chaussure, je lasse les deux. Mais c'est une après l'autre. Et pour... c'est drôle parce que juste avant que vous veniez, j'ai mis mes chaussures. Non, je veux dire, je ne voulais pas qu'une chaussure soit jalouse de l'autre.
Liberté, égalité, fraternité.
Où est-ce qu'elle est, cette liberté, l'égalité, fraternité ?
Merci Ivry Gitlis de nous avoir reçus en sol majeur. Et puis je tiens à remercier, c'est une parenthèse affectueuse, Marjorie Bertin qui m'a guidée jusqu'à vous, Ivry. Et puis je conseille pour tous les amoureux de votre musique, cher Ivry Gitlis, L'âme et la corde que vous avez édité aux éditions Bûcher-Castel. En sol majeur avec Facebook, Twitter, en podcast sur notre application Pure Radio et puis bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain autour d'une rediffusion avec Félouine Sarr.